cours de philosophie de Yévan par le père Louis Dominique Philippe à Saint-Médard le 23 mars 95.
La petite feuille qu'on vous a donnée, il y a une correction à faire. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est ceux qui l'ont faite qui ont eux-mêmes précisé à la fin quand on dit augmentation de la production du sang. Un sommet vers la 8e semaine et début de la production de sang par la moelle osseuse. Système de production identique à l'adulte, ça c'est la 12e semaine. Vous voyez? Donc à partir du début, pour un médecin tout simplement, une ligne nouvelle, il y a la 12e semaine, début de la production du sang. Tout ça, ce sont des signes. Ce sont les seuls signes au niveau biologique. Je sais que le Saint-Père doit donner une encyclique sur la vie avant Pâques. Mais ce sera l'enseignement de l'Église. Et nous préparons de recevoir l'enseignement de l'Église en essayant philosophiquement de comprendre ce qu'elle sait que la vie. Tout ce que le philosophe peut dire. Alors, ce sera très intéressant de voir ce que l'Église, parce que ce ne sera pas une encyclique sur la vie au plan philosophique, vous comprenez. Ce sera donc au niveau proprement de la foi et de l'enseignement de l'Église actuelle. Priez pour ça, parce que c'est sûrement très important. Parce que ça montre bien les préoccupations du Saint-Père, oui, la liberté, avec le point de vue de l'encyclique. Grand point de vue sur l'espérance pour l'éducation des jeunes. Et puis, maintenant sur la vie. Continuons cette petite recherche du pouce, de la croissance. Le psychologue peut dire aussi certaines remarques. Vous voyez, la biologie, c'est la formation du corps. Et le passage du corps dépendant.
Philosophie.
conscience. Je parle de l'homme conscient lui-même. Et autant possible de quelqu'un qui n'est pas un imbécile. L'imbécile pourrait faire la philosophie du vivant, mais ça n'irait pas très loin. Ça irait au degré de son imbécilité. Et pas plus, va. Donc, ça n'irait pas très loin. Donc, plus j'avance, plus je suis. Donc, ma vie intellectuelle, spirituelle, avance. Au plan de l'intelligence, et au point de vue du cœur, de la volonté. Plus mon regard sur la vie est pénétrant. Or, la première chose que fait le philosophe, c'est d'induire l'âme. Tout de suite. Une âme spirituelle. Une âme spirituelle qui est source de vie. Et on avait, à partir de là, étudié les différents niveaux de vie. Ce qu'on appelle les degrés de vie. Vie végétative, vie sensible, vie spirituelle. Les trois grands degrés de vie. Et on développe cela à partir des diverses opérations que nous constatons. Donc, tout ça présuppose une conscience que j'ai de ma vie végétative. Conscience extérieure à ma vie végétative. Quand j'ai mal à l'estomac, je me dis, j'ai peut-être mangé hier quelque chose qui n'allait pas. Je sais pas. On m'a voulu m'empoisonner. Ça a été très loin. J'ai vraiment eu très très mal la nuit. Ça n'a pas été du tout. Puis que je constate que quand on vit en communauté, c'est l'avantage. On s'aperçoit que si tout le monde a eu le même mal, il y a eu des c'est une cause extérieure. Si je suis seul à avoir eu mal, c'est ma fragilité. C'est pas étonnant. Je suis très très fatigué. Donc mon estomac bâtit plus facilement. Et ainsi de suite, donc, moi, n'est-ce pas ? Mais c'est ma conscience que j'ai. Ma conscience passionnelle, j'en ai conscience. Hier, j'étais particulièrement énervé, de mauvaise humeur, colérique. J'ai piqué une colère comme j'en ai jamais piqué. Donc, je vois que mon irascible se porte bien. Même si ça a peut-être fait des dégâts, mais je constate quand même que ça va. Un potentiel de vivre. Et puis, la concupiscence, pendant le carême, elle est particulièrement déguisée. Parce qu'il y a un manque. Il y a un manque de chocolat. Il y a un manque pour celui qui a promis au début du carême de ne pas fumer et qui reste un grand fumeur. Il y a un manque. Et ainsi de suite. Bon, on s'aperçoit beaucoup plus des manques. Qu'on offre au Seigneur allègrement. Mais quand le manque est trop lourd, ça fait qu'on est mauvaise humeur. Ça n'a pas été assimilé. Ça n'a pas été porté. Ça n'a pas été dépassé. Puis ma vie intellectuelle, je commence à émerger. Jusque-là, ma vie intellectuelle, je n'avais jamais compris qu'il y avait une vie intellectuelle. Je commence à m'apercevoir. Une vie affective aussi. Je croyais qu'il y avait la passion. Pour la plupart des hommes et des personnes, hélas, en notre temps d'aujourd'hui, l'amour, c'est l'amour passionnel. Quand on parle de l'amour, c'est tout de suite l'amour passionnel. Et l'amour pour être plus éveillé vis-à-vis de ces problèmes-là, qui sont des problèmes très actuels, quoi, auxquels tout le temps, les personnes cherchent. Alors ils disent, mais comment ? C'est la grosse question. Qu'ils disent, si l'âme n'est pas présente, il ne peut pas y avoir un développement de l'embryon. Mais pas du tout. Les parents sont quand même cause de vie. Pas dire que les parents ne sont pas cause de vie, autrement ce n'est pas père et mère. Donc ils sont sources de vie. Mais sources d'une vie en vue de la vie humaine. Puisqu'ils ne créent pas l'âme. S'ils créaient l'âme, ce serait des points de départ. Ça c'est sûr. Mais il y a uniquement cette vie, ce générative, hein, qui est au niveau de la vie végétative. Mais la vie végétative humaine, cette vie végétative humaine implique donc le point de vue de la liberté, le point de vue de l'amour, implique donc l'atavisme qui regarde ton point de vue sensible. C'est sûr. On a des organes plus ou moins affinés suivant les parents, suivant l'atavisme. On n'en peut rien. Donc c'est tout l'atavisme qui est là présent. Qui est présent dans tout ce point de vue de la vie générative. Oui. Donc, quand ils disent ça ne peut être que l'âme humaine, mais non. Les parents sont des êtres humains qui ont reçu de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a créé l'homme et la femme. Qui ont reçu de Dieu cette capacité d'être source de vie. instant pour que le corps soit capable de la recevoir, d'être informé. Et au point de vue de la foi, puisque le péché originel est transmis par cette vie générativa, il semblerait curieux que ce soit dès le premier instant. Et même pour l'atavisme, je sais très bien que la cause matérielle étant présente dès le premier instant, c'est suffisant métaphysiquement. C'est de l'ordre de la convenance. Vous voyez? Parce que Dieu respecte le point de vue du le développement du corps, parce que c'est voulu par lui. Donc il le respecte, c'est son œuvre. Tout est œuvre de Dieu. Hein. La vie générative, c'est pas l'homme révolutionnaire contre Dieu. Non, non, tout est bien de Dieu. Mais là, il y a la coopération. Pour que la coopération soit plus nette, personnellement, je trouve que Dieu, dans sa sagesse, respecte parfaitement ce que l'homme, comme cause, comme source de vie, peut faire. Écoute. vois, des croyants qui défendent Mordicus, le point de vue de la vie, et qui pour essayer d'empêcher le plus possible le point de vue de l'avortement, disent non, il faut que l'âme soit créée tout de suite. Vous essayez de leur expliquer. S'ils ne comprennent pas, on les laisse. Parce qu'ils ont l'impression qu'on retire quelque chose à Dieu en disant ça. On va pas du tout. Et c'est la fameuse question de ceux qui nient les causes secondes pour exalter la création. Or, il est plus grand pour Dieu de créer des causes secondes que pour en créer. Donc, c'est plus grand, quand on regarde la procréation, de voir le rôle des parents dans, par cette diffusion narrative, que de dire dès le point de départ, c'est là. Parce que c'est plus grand pour Dieu de coopérer en laissant à sa créature un rôle important, former l'embryon, de développer ce développement. C'est plus grand que si Dieu immédiatement imposait là. Ça donne à l'homme un sens plus grand. Combien Dieu veut qu'il ait une responsabilité. Responsabilité à l'égard de la formation première du corps de l'homme. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et ceux qui veulent créer immédiatement l'âme, qui veulent que l'âme soit créée immédiatement, très bien. Ordinairement, ils n'ont pas pensé de ça du tout philosophiquement. C'est ordinairement une vision de sagesse chrétienne. Pour s'affirmer davantage, télescope l'ordre philosophique. C'est très souvent comme ça. C'est très souvent ce que font les bons chrétiens. Les bons chrétiens qui ne comprennent pas la recherche philosophique, ou qui ont peur de la recherche scientifique. On ne doit jamais avoir peur de la recherche scientifique. Jamais. Il faut la situer à sa place. Mais pour voir la situer à sa place, il faut la dépasser. Et on la dépasse par la philo. Quand il s'agit de l'âme humaine. Oui. Et en la dépassant, vous voyez exactement ce qu'elle... Du moins, vous voyez ce qu'elle peut dire et ce qu'elle doit dire. C'est très intéressant de voir tout le développement du corps humain. C'est passionnant. Ce que le philosophe ne peut pas faire, mais il le mentit, vous savez. Et il jette sur ce que dit le savant une nouvelle lumière, dira ah, tiens là, oui, cette autonomie, qu'elle apparaît le sang et l'âme. Oui. Simplement pour que vous voyez bien, parce que c'est un sujet très, très discuté, et si Saint-Père dans son encyclique parle de la création de l'âme, dès le premier moment, c'est possible. On dira, ça c'est la foi. Puis on essaiera de comprendre que ce que je vous dis là est partiel. Si ça avait dit ça au contraire, on dirait très bien. On a bien cherché. Vous gardez toujours, vous voyez, quand il s'agit qu'il n'est pas une certitude. La certitude de la philosophie du vivant, c'est la découverte de l'âme. Ce n'est pas la découverte du comment de l'âme. Le comment est toujours second. Et le comment ne donne pas le même degré de connaissance philosophique. C'est beaucoup plus. Il semble, et c'est descriptif, quoi. C'est descriptif, donc je ne peux pas avoir la même certitude. C'est pour ça que dans ce que je dis là, c'est une opinion. Je sais bien que c'est une opinion. Mais j'essaie que cette opinion soit de plus en plus proche du réel. Et qu'elle respecte à la fois ce que le savant dit et ce que le philosophe dit. La jonction des deux. Oui. Ce dialogue entre savant et philosophe n'est pas commode sur la terre. Au ciel, il sera parfait. Le ciel dira, mais oui, ce qu'on était tous. pense que ça tient bien. tandis qu'ici, cela reste singulier. Alors évidemment, l'intellect affectif pratique continue de se développer. Et au-delà de cet intellect affectif pratique et à la durée, va y avoir point de vue spéculatif. C'est comme les personnages. Hein, vous voyez, la fleur. C'est le dépassement. L'intellect spéculatif, c'est le dépassement à travers le point de vue affectif, pratique et de la durée. Toujours. Mais comme le remarque Aristote, il faut, pour l'intellect spéculatif, il faut une certaine séparation. C'est l'intellect séparé qui est source de la connaissance spéculative. La connaissance, donc, ça peut arriver vite. Mais ce gosse qui pose à sa mère, « Maman, qu'est-ce que c'est que l'éternité ?» À 4 ans. Sa mère qui me dit ça. À 4 ans, le gosse qui pose la question, « Maman, qu'est-ce que c'est que l'éternité ?» Et quand sa mère lui dit, « Maman, mange ta soupe. » Ça, c'est l'intellect pratique de la même qui étouffe. Qui étouffe l'éveil de l'intellect spéculatif. Quand on a affaire à un gosse tenace, vraiment ça. Il cherche. Il prend pas sa soupe. Premier éveil de l'amour de la vérité au-delà de la bêtise sensible qui va manger instinct. Puis au bout de 5 minutes, au bout de quelques minutes, quand la mère revient, elle le voit manger. Alors tu as trouvé ? Oui, maman. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Il prend son rond. Voilà ce que c'est l'éternité. Donc, connaissance spéculative à travers un mode symbolique. La connaissance spéculative naît à travers le symbole. Ça, sûrement. Et par là, elle reste liée à la durée, liée au fait duré, liée à la connaissance affective. Elle n'est pas encore entièrement séparée, mais voyez, le langage est symbolique. Il y a quelque chose de particulier. Bon, là, c'était 4 ans. À 4 ans, un gosse joue. La connaissance affective, elle est très réelle. Parce que, après le sourire, on voit très bien. Les gosses aiment qu'on les embrasse. Et ils s'aiment qu'on soit affectueux, qu'on les regarde, surtout si on a des lunettes. Ça les intéresse prodigieusement. Si la mère n'a pas de lunettes, si le père n'a pas de lunettes, et que vous arrivez à vous ayant des lunettes, vous êtes un mage. Parce que grâce aux lunettes, ils se voient dedans. Mais, donc, à jeune, si lui. Tu vois, c'est l'ami, on semble à lui. Et on se retrouve dedans. Alors ça, ils aiment beaucoup ça. Alors, quel genre de connaissance par rapport aux lunettes ? C'est quand même une connaissance nouvelle. C'est ni l'affectivité, c'est plutôt du côté pratique. Je crois. C'est quelque chose qui... comme de se regarder dans la glace. La connaissance, ça vient très vite, la connaissance dans la glace. Très très vite, le gosse qui regarde dans la glace. Et c'est le jeu. Je crois que c'est le jeu. C'est le fatigué, ça. Parce que les lunettes, c'était prodigieux. Un gosse qui lui parle à qui a un an et demi. Et on dira tout de suite, c'est extraordinaire. Et je crois que ça, c'est le jeu. Et c'est peut-être très... C'est peut-être le premier jeu. Alors là, ce serait très curieux à voir. Parce que le jeu, c'est le dépassement. Il y a un dépassement. semblèrent. Projection. Il y a quelque chose de très curieux. Il y a une thèse à faire sur les lunettes et le boss. Et sur le regard, vous êtes déjà dit le petit chat en face de la glace. Et le petit enfant pour la première fois qu'il se regarde dans la glace. C'est très très curieux. Donc, c'est encore le jeu, c'est la théorie. La connaissance spéculative, c'est différent. C'est peut-être, alors c'est là, l'interrogation. Dans la connaissance affective, il n'y a pas d'interrogation. Dans la telle pratique du facturé, on invente, il n'y a pas tellement de questions. On imite, on regarde faire, et on imite. Dans la responsabilité de la durée, non plus, je crois pas qu'il y a... C'est plutôt la mère qui interroge. La mère qui prépare son enfant à se confesser. C'est par là, elle éduque son intelligence de la durée. De la responsabilité. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, c'est l'éveil de la conscience morale. L'éveil de la conscience morale se fait à partir de discerner dans l'activité qu'on fait le bien et le mal. Et on discerne comme ça. Parce que spontanément, l'enfant ne voit pas très bien. Donc il faut mettre son attention. Le point de vue de l'intelligence spéculative, c'est sans doute l'interrogation. Et il s'exprime par le symbole. Je crois. Et ça peut venir très vite. Moi, je crois que le gosse qui pose la question, je crois pas que c'est... Il a peut-être entendu parler l'éternité, il a peut-être dû... C'est possible. Peut-être c'est possible, mais... Bien, ce gosse, cette femme, je l'avais déjà dit aussi, ces paroles de gosse sont toujours très intéressantes pour l'éveil de l'intelligence. Ce gosse qui revient de son premier là, il est sûrement plus âgé. Il a 7 ou 8 ans. Le maître a dit que 1 et 1, 2. 1 et 1, 1. Maman, il s'est trompé. Il s'est trompé. La joie du gosse de trouver son maître en faute. Ça, c'est la connaissance de la durée. La responsabilité. Le maître n'a pas le droit de se tromper. Bien sûr. Et alors, trouver que se trompe, c'est une mine. Faire sauter l'autorité du professeur. Il se trompe. Il s'est trompé. Un, il a dit deux. Alors la mère lance une balle, une seconde balle. Tu vois, une balle, deux balles. Ah oui, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit une balle, deux balles. Il a dit un et un. Un et un, un. Alors sa mère s'est dit, il était très intelligent mon fils, beaucoup plus intelligent que son professeur, puisqu'il arrive à trouver qu'au-delà de une balle, deux balles, il y a un et un. Sa mère ne savait pas très bien. C'est elle qui m'a raconté cette histoire. Je trouve ça très joli, tu vois. Alors elle était voir le professeur de mathématiques, l'éveil d'arithmétique. Le professeur dit, votre fils, c'est un imbécile, il ne comprend rien. Alors, la mère a compris qu'il y avait entre les deux une antipathie affective. Alors, quand il y a une sympathie, on imite. Quand il y a une antipathie, on veut trouver le défaut. Le défaut de la classe. Et ça éveille. Parce qu'il y a une interrogation. L'éveil, il y a l'interrogation. Et je crois que c'est la connaissance spéculative. Là. Et ça, c'est très important. Vous voyez. À quel moment l'enfant interroge? Et l'interrogation, oui, alors là, c'est... Il y a le sourire qui est très net pour la connaissance affective. Et je crois que l'interrogation, c'est l'éveil de l'intelligence spéculative. Et l'interrogation joue un rôle énorme dans la vie de l'intelligence. Du développement d'intelligence. Après, on posera la question, parce qu'après, il va à l'école, développement d'intelligence. Ordinairement, l'intelligence spéculative succombe devant l'appât affectif, pratique et la durée, ça c'est sûr. Et après, il y a un réveil de l'intelligence spéculative. dimanche de soupe.